Quant au taux d'imposition, nous étions engagés sur un pourcentage de baisse. Ce pourcentage de baisse a été atteint. Et comme nous sommes des gens réalistes, et qu'on vient de déterminer effectivement quels étaient les risques de nos budgets pour 2018, mais également pour les suivants, parce qu'on anticipe aussi, bien sûr, la gestion financière de la ville sur les années suivantes, il nous a paru important, à un moment donné, quand on a atteint ce plancher, de ne pas mettre en danger la qualité des services publics, et à ce moment-là, effectivement, de faire cette pause, parce que nous avons estimé que les objectifs étaient atteints, et très largement atteints. Certes, on peut encore faire des efforts sur la taxe foncière, parce qu'effectivement, là aussi, ça touche les investisseurs, mais les entreprises, aujourd'hui, viennent à Bussy, et celles qui sont déjà à Bussy demandent, et c'est toute la question effectivement qu'on est en train de voir avec Epermarne, des extensions. Toyota, qui était locataire, vient d'acheter son terrain. Donc, si effectivement il y avait un problème de crédibilité par rapport à la fiscalité, ils n'auraient pas acheté leurs locaux. Tech Data, BBL et autres, Makita, demandent à s'étendre, vont acheter du terrain, donc forcément vont payer de la fiscalité supplémentaire. Et aujourd'hui, ils le font, c'est donc effectivement qu'on a réussi aussi notre pari de crédibilité par rapport au taux. Donc à un moment ou à l'autre, quand je disais qu'il fallait être réaliste, eh bien effectivement nous sommes en plein dans cette réalité. Et aujourd'hui, l'épargne que nous avons, je le rappelle, avec le PPP du gymnase Flessel, que nous finançons sur nos fonds propres, que tous les investissements portés aujourd'hui au budget sont financés sans emprunt, eh bien, ça nécessite d'avoir des liquidités pour pouvoir le faire. Donc, qui dit liquidité quand on a des dépenses qui augmentent du fait du coût de la vie et des dépenses qui s'effondrent, eh bien, à partir de ce moment-là, c'est bien la gestion qui fait la différence et c'est une gestion que vous proposons sur ce budget 2018.
Pour compléter les réponses de Yann, faut quand même être clair sur l'ATH, les 1,2%, nous n'en sommes pas responsables. Ce sont les augmentations de base classiques. Voilà. En revanche, non. Quelle collectivité locale, en cette année 2018, aurait osé baisser son taux de taxe d'habitation tout en sachant qu'elle allait perdre des recettes compensées par l'État? Alors que même les contribuables vont voir une baisse de 30% de leur taxe d'habitation. Ça n'a pas de sens. Tout le monde va voir une baisse, même avec l'augmentation de 1,2%, parce que 1,2%, il n'y a pas que Bussy qui est concerné. Ce sont toutes les villes de France et de Navarre qui vont payer sur 1,2% de plus. Sauf que Macron a été très intelligent là-dessus. Il a augmenté les bases, mais il baisse la TH de 30%. Donc les gens verront une baisse de TH. Donc nous n'avions aucun intérêt pour notre fiscalité, pour nos recettes, à baisser aujourd'hui notre taxe d'habitation. Ça n'avait pas de sens. Pour revenir sur la taxe foncière.
Ludo ?
Oui.
Alors, pour intervenir sur la taxe d'habitation, rappelons que ce n'est pas Mme Brunet qui a baissé, c'est l'équipe municipale qui a baissé depuis 4 ans la taxe d'habitation de plus de 25%. Oui. Mais précisons, parce qu'elle parle, elle dit « je », c'est une équipe.
C'est une équipe, Mme Brunet.
Attends, vous avez contesté.
Elle n'a pas été
dans le
C'est un travail d'équipe.
Voilà.
Mais Madame Brunel sait très bien que ça fait 4 ans que je travaille dessus. C'est pas d'aujourd'hui.
Bien.
Non, j'ai dit que le rapport d'orientation budgétaire représentait du travail.
Donc pour rappeler les choses un petit peu dans leur contexte, la taxe foncière, je ne sais pas si quelqu'un se souvient du montant du point de taxe foncière. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Pardon? 190 000 euros. C'est un point, un point, c'est 190 000 euros de recettes. Vous voulez baisser de 5 points, eh bien c'est 1 million d'euros. C'est très simple. Aujourd'hui, est-ce que la ville, avec les données que je vous ai montrées aujourd'hui, c'est pragmatique, ce ne sont que des chiffres et des données réelles, est-ce que nous avons les moyens de baisser la fiscalité d'un million d'euros pour, dans 3 ans, dire aux Buxo-Georgiens, ah ben, on fait banqueroute, donc on est obligé d'augmenter drastiquement. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux maintenir la fiscalité à un niveau, entre guillemets, relativement bas, parce que notre taxe d'habitation est basse par rapport à certaines villes. Regardez, parce que nous avons énormément d'abattements que nous n'avons pas touchés malgré l'annonce Macron, alors que beaucoup de villes y ont touché. Avec une taxe foncière, certes plutôt haute, mais qui compense cette taxe d'habitation.
Donc voilà. Juste une remarque. Quand M. Dubosc dit que les groupes scolaires sont financés par des subventions des PAMARD, je suis désolé, ils vont coûter 31 millions et vous avez inscrit 14 millions de subventions des PAMARD. Donc le différentiel, c'est 17 millions. Par ailleurs, là, puisque Loïc Masson dit qu'on était une équipe, c'est vrai, vous étiez même à mes côtés, il y avait Isabelle Prieur, lorsque, en 2016, la programmation scolaire des PAMARD est venue et on l'avait trouvée assez fausse. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu des fermetures des classes et que dans les écoles, il y avait une classe d'informatique réservée où on a acheté des plateaux roulants, et que vous avez dans chaque groupe scolaire probablement une classe de libre. Bon, donc voilà, donc trois groupes, mais quand vous dites... excusez-moi, le dernier point, je pense que le maire de Bussy, son rôle, c'est pas forcément d'écouter ce que dit Epamar, mais d'être exactement et de répondre exactement. Non, parce madame, que trois groupes scolaires, en plus de 10 groupes scolaires, madame, je ne sais pas où va Bussy. Vous avez quand même 17 millions en plus.
Je suis très heureux que vous inquiétez effectivement de ça, parce que, je dirais, quand on a fait cette première réunion, un an plus tard, avec les mêmes participants, les chiffres étaient totalement différents. Et quand on interroge la direction générale de l'époque, en lui disant, attention, on avait alerté effectivement sur cet élément-là, puisque les chiffres fournis par le service scolaire que vous avez dirigé pendant 3 ans nous a indiqué, et à l'identique, au chiffre près, à l'élève près, la catastrophe effectivement lancée sur la programmation que vous avez signée. Donc résultat, aujourd'hui, le groupe scolaire numéro 10, qui a été reculé d'année en année, elle a eu une conséquence, effectivement, puisque nous avions reculé un certain nombre de projets immobiliers. Sauf qu'il y a une chose que vous n'aviez pas forcément perçue à l'époque, c'est que les marchés étant signés en 2014, les réévaluations annuelles, et l'urgence au vu de la livraison des premiers logements du GS10, l'évaluation annuelle et les conséquences du report, quasiment pendant 4 ans, c'est 400 000 euros. Mais si, madame. Mais si, c'est passé.
J'étais à la commission d'appel d'eau.
C'est passé en CA.
Attendez. Oui, et j'étais à Arbonis, marché de 5 millions.
Madame.
Vous lui accordez une augmentation
madame.
Pour.
Non, mais c'est pas de ça dont je parle. Je vais revenir.
400 000 euros parce que vous avez changé l'entrée.
Il y a deux choses dans ce que vous dites, effectivement. Il y a l'indexation des coûts, 400 000 euros. Ensuite, effectivement, il y a l'option sur le poids.
La livraison était obligatoire en septembre 2019, au vu des termes construits que vous avez signés. Septembre 2019. Quand on a repris le dispositif du groupe scolaire numéro 10, pour qu'il soit signé et qu'il soit
livré plus tôt en septembre 2019, il a fallu prendre l'option qui était l'option initiale que les architectes avaient travaillé. Donc le surcoût, il est dû, 1, aux 400 000 euros d'indexation sur le coût du bâtiment. Mais attendez, on va vous donner tous les chiffres. On va les publier.
Mais
bien sûr que si. Mais la CAO, effectivement, moi aussi. Mais quand on fait le compte, effectivement, on est à 400 000 euros. Deuxième point, effectivement, l'option que nous avions dû prendre pour livrer le groupe scolaire en septembre 2019, parce que sinon nous avions près de 200 familles qui allaient se retrouver en mairie, sans affectation, donc arrêtez de répéter cela. Le groupe scolaire numéro 10, les augmentations, ils sont dues au fait qu'il a été reculé et au fait qu'il a fallu effectivement choisir une option d'urgence pour pouvoir le livrer en septembre 2019. Et ça, je le démontrerai, mais par A plus B. Madame Travers.
Je propose qu'on revienne au sujet, Oui, et juste, je ferai juste une parenthèse pour rappeler que, effectivement, en 2014, nous avions déjà alerté sur les besoins que vous avez évoqués, monsieur Dubosc. Alors, vous étiez une équipe, hein, donc je ne vais pas vous mettre dos à dos, mais pour clore sur ce sujet, à l'époque déjà, nous savions qu'il y avait un groupe scolaire qui allait manquer en entrée ville et qu'il y avait un groupe scolaire qui allait manquer aussi suivant. Donc, voilà, je crois que le constat, il est fait. Maintenant, je voulais juste vous dire notre position à nous, à notre groupe. Donc, nous constatons que la stratégie que vous avez depuis 2014 et que vous avez poursuivie plus récemment atteint ses limites. consiste, et vous l'évoquez du coup, monsieur Boutillier, la réflexion que vous avez par rapport à ça, qui consiste à baisser les impôts, à vouloir tenir les, à gérer les dépenses. Aujourd'hui, cette politique, elle atteint des limites. La situation de Bussy est très tendue. Et d'ailleurs, dans votre discours, monsieur le maire, on sentait bien que pour 2018-2019 et au-delà, on est vraiment dans une situation très tendue. Et aujourd'hui, il est en train de se passer ce que nous avions déjà prédit si on ne sortait pas de stratégie court-termiste et si on ne rentrait pas dans quelque chose de beaucoup plus élaboré qui traite la dette, qui va au-delà de ce que vous avez mis en place. Aujourd'hui, nous considérons que le destin de Bussy financier, c'est plus la municipalité, c'est plus la mairie qui le gère et qui en est maître. Donc, nous n'allons pas voter non plus le ROB pour les raisons suivantes. La première des choses, c'est effectivement que, en termes de stratégie, nous considérons que vous êtes arrivé à bout de course et qu'il faut dépasser cela. Pour exemple, les dotations baissent, ok, mais vous savez, monsieur Dubosc, monsieur le maire, précédemment dans l'opposition, évoquer le fait qu'il y avait des choses à faire vis-à-vis de l'État, qui nous devait de l'argent, eh bien je ne vois rien ici. D'ailleurs, vous n'évoquez même pas les dotations pour les arrières d'amortissement que nous allons devoir aussi financer et rembourser à l'État. Bon. Je finis et vous, après je me suis permis, j'ai écouté tout le monde, je me permets de juste terminer mon propos. Deuxième point, ce qui nous inquiète aussi, c'est la baisse des dépenses, des charges courantes. On a parlé des associations, la caisse des écoles, c'est les enfants, et la caisse et la CCAS, alors que l'année dernière, nous avions entendu un discours très positif sur justement sur l'aide sociale qui fallait faire progresser. Là, on voit une baisse sensible. Ça nous inquiète et c'est un point important parce qu'effectivement, ça touche aux forces vives aussi par rapport au budget georgien. Le troisième point, c'est que l'endettement n'est pas réglé. Effectivement, vous n'avez pas endetté plus, je prends mes mots de citoyenne, mais vous n'avez pas endetté plus la ville. Par contre, la dette reste élevée. Il y a aussi les PPP qui sont là derrière. Et globalement, 57 millions et 15,6 millions, la capacité d'investissement de la commune, elle va être drastiquement contrainte. Et il y a aussi un autre point, qui est que les grands équipes financiers sont quand même préoccupant, l'épargne nette est en chute libre, votre politique financière atteint des limites et il est temps de faire évoluer les choses. Pour toutes ces raisons, et après on va pouvoir rentrer en détail, parce qu'on a quelques points de détail qu'on voulait voir avec vous, nous ne voterons pas le rôle.
Bien, alors je vais juste répondre sur la stratégie, parce qu'effectivement, de dire que cette stratégie arrive au bout, non, elle a démontré sa vertu, et elle va continuer à la démontrer dans les années qui viennent. Et je pense que cette stratégie-là ne fait que commencer. Aujourd'hui, toutes les collectivités sont contraintes. Ce qu'on vous a dit tout à l'heure, Ludovic et moi, sur le contexte national, ne touche pas que Bussy, mais touche particulièrement Bussy. Or, malgré tout cela, malgré les baisses de dotation, malgré les baisses que nous avions organisées, puisque effectivement nous avons baissé les impôts, et je pense que personne ici ne peut dire qu'effectivement c'est une stratégie qui est à bout de souffle. Le fait d'avoir
si, puisque vous dites aujourd'hui que vous avez essayé de ne pas avoir à les augmenter, donc vous êtes en train de l'arrêter.
On vient de vous dire pourquoi. Ça serait suicidaire aujourd'hui, effectivement, dans le contexte actuel d'un gouvernement, effectivement, qui n'a pas demandé l'avis des collectivités territoriales pour prendre une réforme fiscale qui, aujourd'hui, effectivement, nous met en difficulté, en tout cas, de prospective. Mais la stratégie a été la bonne. Je l'assume. Je la continuerai, effectivement, autant que possible. Et les équilibres financiers tels que effectivement vous les évoquez sont des équilibres financiers qui sont quand même très largement supérieurs aux collectivités de même strate. Très largement supérieurs aux collectivités de même strate. Quelles sont les collectivités aujourd'hui qui ont perdu 4 millions de dotations, qui perdent entre guillemets 2 millions par an de fiscalité locale, qui ont une capacité d'autofinancement sur la totalité de leur investissement sans emprunt, qui baissent la dette de 16 millions. Et vous savez, quand on achète une maison, si on reprend effectivement ce contexte-là, quand on a renégocié effectivement les emprunts, eh ben, il faut les rembourser de toute manière. Donc dire que nous n'avons pas réglé le problème de la dette, effectivement, vous avez le tableau d'amortissement de la dette, eh bien jusqu'en 2043 pour la dette normale, et le PPP que nous n'avons pas décidé et qui s'est inscrit dans la dette à hauteur de 10 millions sera remboursé à fin 2034. Donc clairement, notre politique de désendettement, elle est exceptionnelle puisqu'effectivement, nous n'avons pas réemprunté. Et nous avons financé par nos taux propres. Regardez autour de nous L'ANI, Montévrin et autres collectivités sont obligées d'augmenter les impôts, ne serait-ce que pour compenser les dotations. Ce qui n'est pas le cas de Lucie, puisque nous avons fait presque 4 ans de baisse d'impôts. À un moment ou à un autre, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être réaliste, et je pense que cette réalité budgétaire est nécessaire, et aujourd'hui, non seulement je la revendique, mais j'en suis extrêmement fier. Donc nous continuerons sur 10 ans une stratégie, et nous appliquerons, avec les outils qui sont les nôtres aujourd'hui, alors nous ne maîtrisons pas tout, certes, mais nous avons géré en bon père de famille, ce qui nous permet aujourd'hui de traverser un cap absolument incroyable, c'est l'absence de lisibilité sur la fiscalité à terme. Et pourtant, nous avons un PPI ambitieux, et pourtant, nous avons des dépenses, effectivement, qui sont maîtrisées, et surtout, effectivement, ben, nous avons exécuté le principe de réalisme. Augmenter les impôts, parce que vous savez, quelque chose d'assez étonnant, vous avez les cabinets financiers aujourd'hui qui viennent taper à la porte des collectivités en disant, vous savez que vous avez quand même le droit, puisque la taxe d'habitation va être compensée à l'euro près, selon les dires aujourd'hui, ben vous avez la possibilité d'augmenter vos impôts. Puisque les gens vont payer zéro taxe d'habitation, ben il suffit d'augmenter un petit peu le taux et vous allez récupérer de la recette fiscale. Donc, ce qu'on vous enlève d'un côté, récupérez de l'autre. Vous pouvez continuer à augmenter le taux de taxe d'habitation, cette fois-ci, effectivement, qui ne sera pas compensé par l'État. Donc, quand on en arrive à ce genre de discussion, on marche sur la tête. Donc, nous, c'est pas, je dirais, notre politique aujourd'hui. Et comme je vous le disais, je l'assume pleinement. Et sur les autres questions, je laisse la parole à M. Boutillier.
Sur la stratégie, pour préciser aussi, à Mme Travers, nous ne travaillons pas que sur l'impôt. Nous travaillons également sur la dette, puisque nous avons renégocié certains taux de cette dette. Oui. Non, Mme Brunel, il n'y a pas que vous. Vous savez très bien que la renégociation avec la Dixis, j'y ai passé des heures et des heures, j'y ai passé presque un an. Bon, donc, on a énormément travaillé dessus avec les services financiers de la ville. Donc, quand ça s'est signé, je savais pourquoi, jusqu'à la veille où j'ai renégocié 0,1 BP. Enfin, voilà. En revanche, c'est une stratégie globale. Évidemment, on parle beaucoup de l'impôt parce que les Buxans-Georgiens étaient écrasés complètement. Donc ça a été un gros axe. Mais à côté de ça, il y a eu plein de choses de fait pour...
Vous avez baissé les dépenses de fonctionnement. Mais là, vous êtes en train de taper dans le dur. C'est-à-dire les associations, le CCAS et les caisses d'école.
Je vais répondre là-dessus. La caisse d'école. Non, mais je vous réponds et je vous réponds tout de suite.
Là, on va ça, vous l'ayez pas fait encore.
Alors, sur les associations, c'est notre budget, donc les dossiers, on les a déjà reçus. Donc ce chiffre-là sort des dossiers que nous avons eus. Et vous verrez la comparaison avec le CA 2017, oui. Vous verrez la comparaison. Elle doit pas être si énorme que ça. Concernant la caisse des écoles, on est revenu à un niveau normal, regardez les chiffres, à un niveau normal en termes de compte administratif. C'est-à-dire qu'on est quasiment... au chiffre de 2016.
Bah, il faut vous le donner alors parce que...
Vous l'avez dans le robe. Vous l'avez dans le robe. Vous l'avez dans le robe. C'était pour.
Alors, dans le robe, nous avons le compte administratif sur les dépenses de personnel. Non. Mais justement, on se faisait la remarque, ça serait bien de l'avoir sur tout.
Vous avez subvention caisse des écoles. Regardez, Madame Travers, page 8.
Oui.
Autre charge de gestion courante. Subvention aux caisses des écoles. Regardez pas le BP 2017, c'est le budget prévisionnel, puisque dans le robe, on compare budget prévisionnel. Regardez le compte administratif 2016. Subvention aux caisses des écoles, 288 000. Prévision 2018, 297 000. En fait, on se rapproche au plus près de la réalité. Du consommé. Subvention CCAS. 637 000 au BP. On s'est aperçu bien après, parce que ce budget-là, faut être honnête, nous n'avions pas eu le temps de le travailler quand nous sommes arrivés en 2017. Il y avait une erreur de près de 200 000 euros dans ce budget.
Pouvez-vous donner le compte administratif sur 2017 alors, puisque c'est ça le point de compte. Bah alors, vous l'avez sur les dépenses.
Il y a beaucoup de choses qui ont changé à ce niveau-là.
Il y a quand même quelque chose qui
est. C'est le trésor public qui doit pointer nos comptes. Alors ça, il inverse tout ce qui est le compte de gestion. Et hop, on pointe. Maintenant, c'est l'inverse. Oui. On fournit nos comptes et celui qui pointe. Donc on attend aujourd'hui.
J'ai un petit souci quand même. Parce que
le CCS, quand vous regardez, 2016, 400 000 en 2017, Et nous, rien, 528 en BPI. Il n'y a, ce n'est pas une baisse, au contraire.
Ben, ça dépend de ce que vous avez fait en 2017. Et ça, je ne l'ai pas. En fait, vous réussissez à avoir le compte administratif sur les dépenses de frais de personnel, mais pas ailleurs.
C'est notre logiciel de paye. On a toutes les données, on est sûr des données.
Alors, en tout cas, voilà. Donc,
c'est... Donc on n'a pas de validation.
Si on de la DP, on ne peut pas vous donner les chiffres. C'est très simple.